OK, ça fait qu'on va continuer notre étude sur Genèse. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 16, les versets 1 à 16. Alors, on avait déjà lu les versets avant de commencer, alors on ne les reprendra pas. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est de voir l'idée qui court tout le chapitre. Et je pense qu'elle est la suivante, c'est vouloir forcer la main de Dieu. À quelque part, dans l'histoire de Saraï, et l'histoire d'Ismaël et toute cette histoire-là, on voit que quand un croyant cherche à réaliser les promesses de Dieu à la place de Dieu, les résultats, c'est toujours des catastrophes. Autrement dit, quand Dieu promet quelque chose, laisse les dons agir et sois donc patient. Ce qu'on a tant de la misère. Tous les croyants en général, et tous les êtres humains en général, ont beaucoup de misère avec la patience, et pourtant, c'est une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Quand Dieu promet quelque chose, on peut se tenir en arrière et savoir qu'il va réaliser ces choses-là. Alors, on va regarder le texte, je l'ai divisé en trois. Vouloir forcer la main de Dieu, c'est révélateur. On va voir que c'est révélateur du péché des trois personnages, des trois principaux personnages qui sont impliqués là-dedans. On va voir aussi que vouloir forcer la main de Dieu, ça l'amène la réprobation, ça l'amène la désapprobation de Dieu. On va voir comment Dieu agit à travers tout ça pour montrer que, dans le fond, les trois sont dans l'erreur. Et ça, c'est versets 7 à 12. Et on va regarder que les versets 17 à 21, vouloir forcer la main de Dieu, Dieu intervient en régularisant la situation. Et lorsqu'il fait de la régularisation, il se fait je dirais bien ça, des ajustements dans ton comportement. Ce qu'on va voir que après que le Seigneur ait apparu à Agar, lorsqu'elle s'était enfuie, et que ça lui produit un effet sur elle, qui était un effet de régularisation de sa situation. Alors, on va voir les trois idées. Ce qui est important de réaliser lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, parce qu'on l'appelle encore Abraham, parce que Dieu n'a pas encore changé son nom en Abraham. Ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu lui avait fait la promesse, lorsqu'il l'avait sorti du pays, qu'il lui donnerait un pays, qu'il lui donnerait une postérité nombreuse, et qu'il serait, par lui viendrait le futur Messie. Alors, on se met à la place d'Abraham. Il avait 75 ans quand le Seigneur l'a fait sortir de son pays. Là, le texte nous dit que ça faisait 10 ans qu'il était sorti. Donc, au point de vue d'un être humain, 10 ans, c'est long. Seigneur, tu m'as promis que j'aurais le Fils, que le Messie viendrait par moi. Et ça fait 10 ans que tu m'as promis ça, puis c'est rien passé. Puis ça fait 10 ans que tu m'as promis ça, puis je ne vois vraiment pas comment ça va se réaliser, parce que ma femme est rendue à 75 ans. Puis elle est stérile, elle n'est pas capable d'avoir d'enfant. Alors, imaginez-vous, il y a un problème, là. Mais quand on avait vu la semaine dernière, dans le chapitre 15, le Seigneur avait perçu les difficultés de la foi d'Abraham et il était intervenu en passant entre les parties des animaux qu'on avait vues, qui avaient coupé en deux. Et c'était une indication que lui seul s'engageait à accomplir la promesse qu'il avait fait à Abraham, le fait qu'il est passé. Alors, on ne reprendra pas le sermon de la semaine passée, mais c'est bon de le situer dans son contexte. Ça faisait un an, parce que dans le texte, à la fin, ça dit qu'il y avait 86. Dans la semaine dernière, il y avait 85. Donc, ça faisait un an que Dieu lui avait renouvelé sa promesse en passant entre les animaux. Et faisait un an. Selon vous, est-ce que un an, encore là, pour l'être humain, c'est long. Tu m'as renouvelé la promesse, mais là, ça fait un an de ça, puis il ne se passe rien. Celle qui a l'air à s'exciter le plus dans le texte, c'est Saraï. La femme a dû dire, ben là, moi, je suis supposé d'être la mère du Messie, ou du moins d'amener la lignée du Messie. Je suis stérile. Alors, à cette époque-là, il y avait une coutume. Les Orientaux, ils ont une coutume que si une femme n'était pas capable d'avoir d'enfant, tu pouvais donner une autre femme, une servante, un peu l'équivalent du concept moderne de la mère porteuse. Et à cette époque-là, dans leur contexte social à eux, l'enfant qui venait par la mère porteuse devenait son enfant. Alors, elle voulait un petit peu forcer la main de Dieu et régler le problème à sa manière, à la manière humaine. Regarde, je vais te... OK, je ne suis pas capable d'avoir d'enfant, Dieu m'a fait stérile, je vais te donner ma servante. Il y a quelque chose à se souvenir aussi, cette servante-là. Pourquoi il y avait une servante égyptienne? Parce que quand il y avait eu un problème de nourriture, il était descendu en Égypte. Autrement dit, qu'est-ce que c'est en train de nous enseigner? C'est que les suites de notre péché, ils nous suivent. Alors, la femme égyptienne était là, et elle, elle pense qu'elle a la solution. Elle dit, « OK, mon mari, Abraham, je te prends cette servante-là, va, couche avec. » Et si elle est enceinte, ben, l'enfant qui va sortir d'elle, ça, ça va être l'enfant par lequel Dieu va réaliser sa promesse. Et là, ils se mettent les pieds dans les plats, toutes les trois. Alors, la servante, c'est peut-être elle qui est la moins coupable dans tout ça, mais Saraï et Abraham font l'erreur d'embarquer dans ce jeu-là. On va voir que ça a des conséquences immédiates dans leur vie spirituelle, dans leur vie familiale, et que ça va avoir des conséquences sur le très long terme. Parce que Ismaël, c'est la personne qui, par eux, les Arabes sont venus. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, et les Arabes ont toujours été des ennemis. Alors on voit que, dans le fond, leur affaire, ça a eu des conséquences, bien sûr, immédiates, mais ça a eu des conséquences qui se sont étendues sur toute l'histoire d'Israël sur très longtemps, même encore aujourd'hui. Les Arabes et les Israélites, ça marche pas trop fort. Alors, une erreur qui a été commise, là, je sais pas combien de milliers d'années, a encore des conséquences aujourd'hui. Ça nous enseigne-tu quelque chose, ça? Quand on cherche à forcer la main de Dieu, en voulant accomplir à sa place ce qu'il nous a promis, c'est toujours la catastrophe qui en résulte, tout le temps. Alors, bien sûr, l'histoire d'Abraham, ça s'articule autour de la promesse d'un fils. Dieu lui avait promis que le Messie viendrait par sa lignée. Pas nécessairement que sa femme, si elle avait un enfant, ça serait le Messie, mais que la lignée du Messie viendrait par son propre fils et non pas le fils d'une servante. Alors pour lui, si on étudie ça, il faut se souvenir qu'Abraham était pleinement persuadé que Dieu était capable de lui donner un fils. Mais là, il y a eu comme un petit moment d'hésitation dans sa foi. Quand sa femme lui a proposé ça, il a vu ça comme une solution possible et il a tombé dans le panneau. Alors, mais il y avait la conviction que le Messie serait issu de sa postérité, la venue future du Messie, autrement dit. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui est important pour comprendre tout ce qui est le contexte de ce qu'on est en train d'étudier ce matin. C'est celui de Galates 3.16. Galates 3.16 vient nous dire qui était la postérité d'Abraham, et les promesses avaient été faites à Abraham et à sa postérité, mais les Écritures nous disent c'est qui sa postérité, parce que c'était pas juste des enfants, là. Alors ça dit dans Galates 3.16, « Or, les promesses ont été adressées à Abraham et à sa postérité, et il ne dit pas « et à tes postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, « et à ta postérité qui est le Christ ». Les promesses avaient été faites à Abraham et à sa postérité. Puis sa postérité, les Écritures dans le Nouveau Testament nous disent qui c'était. C'était le Christ. Alors les promesses vont se réaliser par l'intermédiaire, par le moyen du Christ. Alors le passage d'aujourd'hui peut nous amener à se poser la question suivante. Pourquoi le Seigneur prend-il tant de temps pour accomplir sa promesse? Parce que sa promesse, ça ne s'est pas réalisé tout de suite. Là. Même quand Saraï, ou quand son nom changé, est devenu Sarah, là, il y a eu Isaac, Jacob, et ça a continué toute l'histoire. Là. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, ça a pris du temps. Alors, le temps de Dieu et notre temps n'est pas le même temps. Ça, il faut vraiment se rentrer ça bien profondément dans le coco. Alors, est-ce que le Seigneur faisait ça là, dans la vie d'Abraham, de ne pas lui donner un fils qui était le fils de sa femme? Pourquoi le Seigneur lui permettait que ça prenne tant de temps? Ça faisait déjà 15 ans. Fait que, il trouvait ça long. Est-ce que c'était parce que le Seigneur voulait lui montrer la vertu de la patience? Non. Oui, puis non, mais surtout non. Est-ce que le Seigneur voulait... on croit que non pour la raison suivante, parce qu'on croit que Dieu voulait démontrer avec une certitude absolue que la postérité qui était promise, le futur libérateur et le futur Messie, aura une origine surnaturelle. Alors la postérité d'Abraham ne sera pas le fruit de calculs humains. C'est un peu ça qui se passe ce matin. Ah, ça ne marche pas, mais moi je vais y arranger ça. Alors, le fruit des calculs ou de la volonté des êtres humains. Alors, Saraï, elle voulait l'avoir, l'enfant, puis elle dit, « Moi, tu ne nous le donnes pas, mais on va prendre le moyen de l'avoir un jour. » C'est un peu ça qui se passe dans sa tête. Mais Dieu veut lui faire réaliser que la venue future du Messie, ça va être surnaturel et ça va se faire par l'intermédiaire de la puissance de Dieu et de la fidélité à sa parole. Alors, la promesse de Dieu, si on étudie tout l'Ancien Testament, à partir du moment où Dieu a fait cette promesse-là, Genèse 3,15, et là, on est rendu à Abraham, et ça se transmet de génération en génération à travers le peuple d'Israël, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Alors, à quelque part, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes au cours de l'histoire pour ce qu'on pourrait appeler des événements imprévisibles, des choses qui arrivaient dans la vie du peuple d'Israël, qui avaient l'air à démontrer que ça n'arrivera pas. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que des fois, les Écritures ne mentionnent pas toujours, mais Satan est en arrière pour essayer d'empêcher la venue future du Messie. On voit ici que quand l'homme cherche à vouloir accomplir à la place de Dieu, il fait par l'impatience. Mais moi, je trouve que quand on lit des textes comme ça, puis qu'on ne tire pas le son du texte, on lit en superficie, on n'apprend rien. Est-ce que on est, nous aussi, impatients, des fois, face à... Dieu nous met dans des situations où on se doit d'être patient, d'attendre patiemment que Dieu règle le problème. Il ne le règle pas toujours au moment où nous, on aimerait qu'il le règle, mais il finit toujours par le régler. Alors, Dieu voulait y montrer que malgré toute l'opposition que les hommes vont avoir pour empêcher la venue du Messie dans l'histoire, la puissance de Dieu va faire en sorte que ça va se réaliser malgré eux, malgré toutes les formes d'opposition et toutes les formes d'obstacles possibles. Alors, ce qu'on va regarder, le premier point aujourd'hui, c'est que vouloir forcer la main de Dieu est révélateur, les versets 1 à 6. Vous allez me dire, est révélateur de quoi? Est révélateur de l'impatience. Et ça vient de révéler quelque chose. Si on appelle Abraham le père des croyants, ou Abraham le père des croyants, on ressemble à notre père. Abraham était impatient, mais nous aussi on est impatients. Alors il faut vraiment retirer des leçons de là-dessus. Alors l'impatience, c'est vraiment une des plus grandes difficultés de la vie de foi. Les Saintes Écritures nous montrent ce qui arrive lorsque l'impatience du croyant s'active, c'est ça qui se passe ici, et les conséquences qui en découlent. On a vu tout à l'heure, ça l'a mis du désordre dans sa famille, et non seulement du désordre dans sa famille, mais du désordre dans la vie du peuple d'Israël pour des siècles. On se rend-tu compte de la portée d'un seul péché? C'est ça qu'il faut, quand on lit, il faut réfléchir à ces aspects-là, parce que c'est ça que ça fait. Alors, rappelons-nous que dans le chapitre 15, Dieu avait gracieusement fortifié la foi chancelante d'Abraham par la cérémonie de passer entre les animaux. Ça aurait dû être suffisant pour dire, « OK, ça va être long, je ne sais pas comment ça va prendre de temps, mais je vais attendre. » Les Écritures nous disent combien ça a pris de temps, parce qu'on va voir un petit peu tantôt des versets. Il l'a eu, il y avait 100 ans. La promesse avait été faite, il y avait 75. Ça a pris 25 ans. C'est long pour un être humain, ça, 25 ans. C'est long, c'est l'éternité. Alors, Alors Dieu l'avait encouragé alors qu'il avait 85. Donc ça faisait 10 ans qu'il était sorti du pays. Mais il semble que la leçon n'avait pas été comprise ni par Saraï, ni par Abraham. Parce que la preuve, ils ont tombé dans le panneau de vouloir aider Dieu. Alors, sans doute qu'il aurait été plus sage de leur part d'avoir confiance en Dieu et de s'armer de patience. Parce que des fois, quand on traverse des problèmes grands dans nos vies, des problèmes importants, là, n'est-ce pas qu'on prie Dieu, puis on aimerait donc qu'il réponde comme ça. Tout de suite. On manque pas de patience, nous autres, on est des modèles. Alors, on se doit d'être patient dans l'épreuve. Parce que c'est ça qui arrive dans la vie d'Abraham, il est dans l'épreuve. Alors, Saraï, quand elle voit ça, elle dit « Probablement que c'est de ma faute, là, si on n'a pas d'enfant. » Ah, une idée géniale, voilà. Fait qu'elle dit à son mari, « Regarde, j'ai une servante qu'on a emmenée de l'Égypte. » C'est sa première erreur d'avoir descendu en Égypte alors qu'il y avait une famine au lieu de se fier sur Dieu. Là, il y a encore une deuxième. Ça nous donne-tu une leçon que, comme croyants, des fois, on fait des erreurs, erreur sur erreur, comme on dit. Alors, pour elle, sa solution, c'était une mère porteuse. Aujourd'hui, on appellerait ça une mère porteuse. Autrement dit, tu n'es pas capable d'avoir d'enfant. Tu fais ensemencer une autre femme, puis tu dis, ben, mon enfant, je vais l'avoir par une autre femme. Est-ce que c'est révélateur d'un manque de foi? Très certainement. Parce que ça dit dans le verset 1 à 3, « Or, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait donné aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, « Voici maintenant, l'Éternel m'a rendu stérile. » L'Éternel l'a rendu stérile parce qu'il voulait qu'elle soit stérile. Puis quand il a décidé de lui enlever sa stérilité, c'était le moment choisi par Dieu. Elle a voulu passer par-dessus, régler le problème à sa manière. Elle dit, « Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham acquiesça à la demande de Saraï. Selon vous, est-ce que Abraham aurait dû dire, « Oh, la femme, un instant là, ça ne marche pas de même. Tu ne fais pas ça. » Et il aurait dû la reprendre. Mais lui-même, sa foi était affaiblie. Il a cru, il a acquiescé à la demande de sa femme et il est tombé dans le panneau lui aussi. Alors dans le verset 3, ça dit, « Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. » Donc, il avait 75, il était rendu à 85. Cette mauvaise initiative-là de Saraï, ça va révéler plusieurs problèmes avec la foi de Saraï et la foi d'Abraham. Saraï manque de foi. Autrement dit, elle ne croit pas en la capacité de Dieu de tenir sa promesse malgré les difficultés. Imaginez-vous, vous avez 115 ans, puis Dieu vous dit, tu vas avoir un enfant. Tu dis, ouais. Elle est en plus stérile. Donc, il y a le problème de l'âge et le problème de la stérilité. C'est un peu comme les femmes aujourd'hui qui ont beau essayer d'avoir des enfants, ne sont pas capables, ils vont vérifier au médicalement, et la science médicale leur dit, tu n'auras jamais d'enfant, tu es stérile. Alors, il aurait fallu que... Là, pour l'être humain, de se dire, Dieu est capable de régler même des choses, des difficultés qui me semblent à ma vision insurmontables. Abraham aussi manque de foi, parce qu'il acquiesce à la demande de Saraï, au lieu de la reprendre et de la réprimander, puis dire « Oh, oh, ça ne marche pas de même ». Après ça, tous deux violent la loi divine de la monogamie, parce qu'il y a même des personnes aujourd'hui qui se servent de ces versets-là pour montrer qu'un homme peut avoir plus qu'une femme. Ils disent « Regarde, c'est Dieu, c'est Saraï qui a dit, elle a eu, Dieu a dit « Vous n'avez pas bien fait ». Alors, la monogamie, si on veut savoir, Genèse 2, 24, il y avait déjà la volonté de Dieu qui était exprimée, comme de quoi l'homme se devait d'être monogame, donc avoir une seule femme. Alors, tous deux violent la loi divine de la monogamie. Alors, leur impatience et leur folie de vouloir aller plus vite que Dieu va leur apporter de multiples problèmes. Donc, révélateur d'un manque de foi. Deuxième révélation, révélateur de péché. on va voir qu'il y en a beaucoup de péchés là-dedans, quand on les regarde, quand on s'arrête à analyser le texte. Versets 4 à 6. Alors, il vint donc vers Agar. Donc, Abraham, il va coucher avec la servante égyptienne. Et elle conçut. Elle, il a couché avec, il a eu un enfant de suite. Elle conçut. Mais là, le problème, c'est que Agar, ça lui a monté à la tête, ça. Ah, ma maîtresse n'est pas capable d'avoir d'enfant, puis moi, je suis capable. OK, elle s'est mise à agacer Saraï avec ça, et Saraï, elle s'est choquée. Alors, et Agar, voyant qu'elle avait conçu, méprisa sa maîtresse. Voyez-vous, ça l'emmenait au mépris de sa maîtresse. Verset 5, et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait revient sur toi. » Là, autrement dit, elle est en train de vouloir blâmer. C'est elle qui a amené l'idée, mais elle est en train de vouloir blâmer. C'est son mari qui si j'ai des problèmes, c'est de ta faute. Voyez-vous? Est-ce qu'on se reconnaît encore là-dedans? Problème, les péchés, c'est toujours la faute des autres. « Je t'ai donné ma servante en ton sein. » Mais quand elle a vu qu'elle avait conçu, elle m'a méprisé. Que l'Éternel en juge entre moi et toi. Alors Abraham répondit à Sarah. Voyez-vous, la manière qu'il a répondu, lui, s'en lavait les mains. Et voici qu'est-ce qu'il a dit. Alors Abraham répondit à Sarah. Voici, ta servante est entre tes mains. Traite-la comme il te plaira. Saraï, donc, la maltraita. Là, s'est mis à faire du trouble à la servante. Et Agar, quand elle a vu ça, elle n'était pas capable de, comme on dit en bon québécois, de stender la pression. Elle est partie, elle est enceinte, puis elle s'en va dans le désert. Puis elle voulait se retourner vers son pays natal, l'Égypte. Bon, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait arrivé dans le désert si le Seigneur n'aurait pas intervenu? Elle serait morte. Elle serait morte de soif, elle serait morte de fatigue, elle serait morte de toutes sortes de dangers qui peuvent guetter quelqu'un qui voyage dans le désert. Alors, les péchés d'Agar, quels sont-ils? Le mépris, le manque de soumission, la fuite. Les péchés de Saraï, le manque de contrôle de soi. Quand tu as vu, hein, tu veux rire de moi, tu vois, je vais te montrer, moi, c'est qui est le boss. Puis à cette époque-là, quand tu étais le maître de quelqu'un, tu pouvais y rendre la vie vraiment insupportable. Alors, le manquer de contrôle de soi. Elle a manqué de crainte de Dieu parce qu'elle a même le nom de Dieu là-dedans. Elle dit, c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Elle mêle Dieu à son affaire. Un manque d'amour. Maltraiter quelqu'un, c'est pas un signe que tu l'aimes. Ensuite, le manque de respect envers son mari. Et le manque de maturité. Donc, elle a manqué de respect envers son mari. De la manière qu'elle y parlait, là, c'est comme... Alors, il y a beaucoup de péchés. Les péchés d'Abraham, parce qu'Abraham aussi il n'avait là-dedans. Manque de foi, manque de prière. Il aurait pu avoir le réflexe de dire, ben là, on est en train de faire quelque chose d'important, on est en train de faire quelque chose de grave. Ne devrais-je pas consulter l'Éternel? On n'entend pas parler de prière du tout là-dedans. Manque de leadership. La Bible enseigne que c'est l'homme qui est le maître du foyer, qui dit qu'il devrait diriger son foyer, il a manqué un petit peu de leadership. Il a manqué de vision aussi. Il n'a pas vu les conséquences possibles que cette affaire-là pouvait avoir, non seulement sur sa vie familiale, sa vie matrimoniale, et aussi la vie future du peuple d'Israël lui-même. Un péché a des conséquences à long terme sur plusieurs siècles. Ça, quelque part, on ne réalise pas toujours ça, des fois que nos péchés peuvent avoir des conséquences qui durent dans le temps. Le manque de correction de son épouse. Il aurait dû la corriger, dire, là, écoute, Saraï, là, ça ne marche pas de même. Et autrement dit, il s'enlève les mains. Fais ce que tu veux. Il a manqué de fermeté aussi envers Agar. Il aurait pu dire, Agar, viens ici, là. Ça ne marche pas de même, là. Tu es un esclave. On t'a demandé d'être la mère porteuse, on t'a pas demandé de rire de ma femme. Il ne l'a pas fait non plus. Et ça manque qu'un certain point aussi, un certain manque de maturité spirituelle. Alors, les conséquences de leur péché au pluriel de ces trois personnages-là vont les poursuivre durant leur vie terrestre, durant toute la vie qu'ils vont avoir sur la terre. Vous allez voir que ce n'est pas fini. Là. Quand on va étudier Genèse un petit peu plus tard, on va voir que ce n'est pas fini cette histoire-là avec Ismaël. Il y a eu des troubles à cause de ça. Alors, les troubles que tu fais, là, plusieurs années, ils te suivent bien longtemps. Mais retenons la leçon, nous aussi, quand on manque de patience, et qu'on fait des choses pour régler, forcer la main de Dieu, nous aussi, ça nous amène des problèmes qui nous suivent bien longtemps. Et si on étudie l'histoire du peuple d'Israël, on se rend compte que les Arabes ont été un problème majeur pour le peuple d'Israël durant toute leur histoire, et même encore aujourd'hui. Alors, quand Dieu dit « Oui, je vais te donner un fils, tu vas avoir Ismaël », mais Ismaël, on va voir tantôt comment Dieu lui a dit quel caractère aurait cette personne-là ou ses descendants. Deuxième point qu'on va regarder, c'est qu'il vouloir forcer la main de Dieu, c'est réprobateur dans le sens que Dieu va démontrer là-dedans qu'il désapprouve tout ce qui s'est passé et il va le faire d'une façon vive, et il va le faire d'une façon sévère. Dieu lui-même va devoir intervenir en grâce pour corriger la situation qui aurait pu se détériorer davantage. Imaginez-vous une femme enceinte qui s'aventure dans le désert et qui voulait retourner en Égypte. Ça aurait pu être une catastrophe monumentale, à la fois pour sa propre vie et la vie de l'enfant aussi. Et on va voir à quel point aussi plus tard Abraham était attaché à son fils. On va le voir plus tard, le développement des conséquences de tout ça. Alors Dieu, par une théophanie, intervient auprès d'Agar pour corriger la situation. Voyez-vous, on apprend par ce passage-là que quand on fait des bêtises, des fois Dieu est obligé d'intervenir lui-même pour corriger la situation. Versets 7 à 9 de Genèse 16. Mais l'ange de l'Éternel, dans les Écritures, quand on lit l'ange de l'Éternel, c'est souvent une théophanie. La plupart des commentateurs croient que c'est une apparition physique de Jésus-Christ qui intervenait dans la vie d'Agar. L'ange de l'Éternel, c'est souvent dans les Écritures, c'est une théophanie. Donc c'est Dieu lui-même qui intervient dans la vie de la servante. Mais l'ange de l'Éternel la trouva auprès d'une fontaine d'eau au désert, près de la fontaine qui est au chemin de Sûr. Et on voit par les endroits qu'elle se dirigeait, sa volonté de retour vers l'Égypte. Alors, l'ange de l'Éternel, et il lui dit, verset 8, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Et elle répondit, « Je m'enfuis de devant Saraï, ma maîtresse. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne à ta maîtresse et t'humilie sous elle. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui aiment ça, s'humilier. Alors il dit, la solution, là, tu es une servante, puis c'est pas très brillant ce que tu es en train de faire. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ça n'a pas dû être facile pour elle de retourner voir sa maîtresse qu'elle avait méprisée et de dire, Saraï, je m'excuse, je te demande pardon. Ça a dû être très difficile pour elle de faire cela. Alors, l'ange de l'Éternel, du verset 7, pour beaucoup de commentateurs, c'est une théophanie, donc une manifestation visible de Jésus-Christ. Alors, on se doit de nous émerveiller devant cette intervention-là. Pourquoi? Parce que ça révèle plusieurs choses sur le caractère de Dieu. Sa souveraineté. Autrement dit, Dieu, parfois, intervient dans nos vies à des moments précis pour nous sortir de situations dans lesquelles on s'est mis nous-mêmes dans le trouble. Souverainement, c'est lui qui décide de venir vers elle. C'est pas elle qui a dit, « Seigneur, aide-moi! » Il n'y a rien dans le texte qui dit ça. C'est le Seigneur qui prend l'initiative de venir la rencontrer. Alors, il fait une initiative, et c'est personnel. Il veut la rencontrer, elle, personnellement. Et verset 7 nous dit, il nous parle de la condescendance de Dieu. Il la trouva. Pensez-vous que c'était difficile pour l'Éternel de trouver la femme? Il la trouva. Et sa miséricorde aussi nous est indiquée par le fait qu'il l'a trouvée auprès d'une fontaine d'eau. Plusieurs croient que la fontaine d'eau là-dedans pourrait symboliser les Saintes Écritures. Le désert symboliser une âme qui est brisée, contrite, désespérée. Et sur le chemin de Sûr, ça symboliserait le retour vers l'Égypte, sa mondanité et son idolâtrie. Donc, à quelque part, si on regarde les textes et les symboles qui sont souvent présents dans les Écritures, on voit ces idées-là. Et son omniscience aussi, l'omniscience de Dieu, qui voit tout, qui sait tout. Donc, la connaissance, il la connaissait. Pensez-vous que la question, il ne savait pas d'où elle venait puis où elle allait? C'était plus pour lui faire prendre conscience à elle d'où tu viens, puis d'où tu viens, l'Égypte, puis où tu t'en vas. Tu te retournes encore vers l'Égypte. Donc, c'est à peu près l'idée. Alors, elle se retournait vers les dangers du désert, vers la mort éternelle, si elle continuait sa fuite. Non seulement sa mort à elle, mais la mort de l'enfant qu'elle portait également. Et la sagesse de Dieu qu'on voit dans tout ce passage-là, dans le verset 9, autrement dit, le droit de Dieu de te commander ce qui est sage. À ses yeux, à elle, ça peut dire, oh, c'est une bonne idée. J'imagine que dans sa tête à elle, oh non, je vais être obligé d'aller dire à ma maîtresse, je me suis trompé, je me suis sauvé, je n'aurai pas Dieu, etc. Alors, dans la réprobation que Dieu fait, le Seigneur va quand même l'encourager, Agar, par trois moyens. Il va lui faire une prophétie triple. Il y a trois éléments dans la prophétie qu'il lui fait. La première, au verset 10, ça dit, « Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta postérité et elle sera innombrable en multitude. » Il est en train de dire, « Si tu retournes, tu vas avoir ton enfant. » Et ton enfant va devenir les Arabes. Alors, quand on le sait, Israël est plein d'autour, c'est des Arabes. Il dit, ça s'est réalisé, on le voit aujourd'hui, que Dieu a réalisé cela. Et dans le verset, alors il lui fait une promesse comme de quoi, que si elle obéit, elle va avoir une postérité nombreuse qui vont être les nations arabes. Il lui fait aussi une déclaration. Verset 11, « Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël. » Ismaël, dans l'hébreu, ça veut dire « Dieu entend ». Dieu entend. Alors, si je me mets à la place de Saraï, qui va avoir sa servante va revenir, et le nom de sa servante, c'est « Dieu entend ». Est-ce que ça ne sera pas une façon pour Dieu de lui rappeler sa faute passée de façon continuelle? Bien sûr. Parce que ça dit, car Dieu a entendu ton humiliation. Et il lui fait aussi une prédiction concernant l'enfant qu'il va avoir et les descendants, les Arabes, quel va être leur caractère. Dans le verset 10, et cet homme, il parle d'Ismaël, il n'est pas encore né, mais Dieu lui dit déjà quel caractère vont avoir les personnes qui vont venir, qui vont être des descendants d'Ismaël. Et cet homme sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, autrement dit, il va avoir tendance à être contre tout le monde, et tout le monde va avoir tendance à être contre lui, ça va être un homme qui va être porté aux chicanes, il va aimer les affaires. Et la main de tous sera contre lui, et il habitera en présence de tous ses frères. Autrement dit, il est en train de dire, il va être un problème pour Israël en face, je veux dire en face de tous ses frères, c'est vraiment lui rappeler que cet homme-là va être un problème. Alors, la promesse, bien sûr, avait pour objet de l'encourager et de l'assurer que son enfant verrait le jour et qu'il aurait, et qu'elle aurait, une postérité très nombreuse, soit les peuples arabes. Car les Arabes, aujourd'hui, ils disent tous qu'ils descendent d'Ismaël. Ils sont courants. Ils sont conscients qu'ils descendent d'Ismaël, le premier fils charnel. Et on va voir tantôt que Paul se sert de cela pour montrer que c'était une allégorie. C'est très important de saisir ça à un moment donné. Des fois, on ne le saisit pas tout le temps. Mais, alors, dans le verset 16, dans le verset 11, c'est-à-dire, la déclaration que Dieu lui fait va rassurer Agar que Dieu lui donnera un fils, que son nom sera Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Sans doute, le nom d'Ismaël sera pour Saraï un reproche divin constant dans toute sa vie. Genèse, on va aller un petit peu plus loin dans Genèse 21 pour comprendre les liens qu'il va y avoir avec l'avenir. Alors, pour savoir à quel âge il va l'avoir l'enfant. Parce que là, on ne sait pas encore. Là. Si on est rendu à ce chapitre-là, puis on n'a pas lu jusqu'au chapitre 21, on ne sait pas encore. Alors, ça dit dans Genèse 21, verset 5 à 13, « Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. » La descendance a été Isaac, Jacob, et ça a continué. Mais il avait 100 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 25 ans que le Seigneur lui a fait la promesse. Ça a pris du temps. Hein? Et Sarah lui dit, « Dieu m'a donné lieu de rire. Quiconque l'entendra rira avec moi. » Et elle dit, « Qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je lui ai enfanté un fils de sa vieillesse. » Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham riant. Et elle vous dit, c'est choquant encore. Et elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cette parole fut très mauvaise aux yeux d'Abraham au sujet de son fils. Voyez-vous, il est rendu à 100 ans. Puis la faute qu'il a faite à 85 le suit encore. Et dans le verset 12, ça dit, « Et Dieu dit à Abraham qu'il n'y aurait rien de mauvais à tes yeux touchant le jeune garçon et touchant ton esclave. Quoi que tu dises, Sarah écoute sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Et quant au fils de l'esclave, j'en ferai une nation parce qu'il est ta postérité. » Une nation, donc les nations arabes. Si on veut comprendre bien le passage, il faut aller faire un petit tour dans le Nouveau Testament. Dans Galates, chapitre 4, versets 22 à 31. Où Paul nous explique que ces deux personnages-là, de Saraï qui a voulu avoir un enfant, il l'appelle l'enfant de la loi. Autrement dit, c'est comme l'image d'Israël qui cherchait à obtenir le salut par la chair. Tandis que l'autre, c'est vraiment par la grâce. Alors, on va voir qu'est-ce que Paul dit dans Galates 4, versets 22 à 31. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre naquit par la promesse. » Verset 24, « Or ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. » Il est en train de parler que Agar symbolise la nation juive qui cherchait à obtenir le salut par la chair, autrement dit par l'obéissance, leur propre obéissance. Et verset 25, « Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie et correspondante à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est la mère de nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point. Efforce-toi, est écrit, toi qui n'étais point en travail d'enfant. Car il y a beaucoup plus d'enfants de celles qui avaient été laissées que de celles qui avaient un mari. Or pour nous, mes frères, nous sommes des enfants de la promesse, ainsi qu'Isaac. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Or, mes frères, nous ne sommes point enfants de la servante, mais de la femme libre. Autrement dit, il est en train de nous dire qu'il y avait, c'est une allégorie, c'est du symbolisme. Il est en train de dire que Agar, ça représente l'ancienne façon que les Juifs croyaient obtenir le salut. Et il nous dit aussi que le vrai fils, lui, il représente les vrais croyants, les croyants par grâce, par vertu de la promesse qui était en Jésus-Christ. Et il fait une allégorie, il prend une histoire et il nous démontre que ça a une portée beaucoup plus grande qu'on est porté à la voir ordinairement. Alors la prédiction concernant le caractère d'Ismaël et à sa descendance nous conscientise sur une vérité concernant les futures relations d'Israël avec les Arabes. Alors la traduction du verset 12 pourrait se faire comme suit, il sera un âne sauvage d'homme. Autrement dit, il parle des Arabes, il parle de leur caractère qu'ils vont avoir dans leur relation avec les autres. Les autres vont toujours être en chicane contre eux autres et eux vont être en chicane contre tout le monde. C'est ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. On va regarder le troisième point. quand on veut forcer la main de Dieu. Souvent, Dieu va se servir de l'événement pour nous emmener à prendre conscience de certaines choses qu'on a besoin de prendre conscience. Versets 13 à 16, « Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Atta El Roy, tu es le Dieu de ma vision. Car elle dit, quoi, je vis encore après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé le puits de l'Aka Roy, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadesh et Bered. » Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils qu'Agar avait enfanté, Ismaël. Il a appelé le nom, comme Dieu lui avait dit que ça arriverait, il a donné le nom d'Ismaël. Et regardez à partir du verset 16. Et Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et on a vu tout à l'heure par le texte qu'on a regardé tantôt, il y a 86, mais ça va prendre encore 14 ans. Ça va être long, ça va être long. Alors, qu'est-ce que ça a eu pour effet sur la vie de Agar? Ça l'a régularisé sa vie d'adoration. Elle reconnaît que Dieu a vu sa folie. Parce que quand on lit le Dieu qui me voit, puis tout cela, elle a reconnu sa folie, elle a reconnu son péché. Elle a reconnu sa douleur, que tout ça lui a apporté, elle a reconnu son affliction. Elle reconnaît qu'elle n'a pas recherché Dieu jusque-là dans sa vie. Son focus maintenant est déplacé. Il se déplace de sur elle-même et il s'en va vers Dieu. Alors elle reconnaît qu'elle a reçu une grâce. Maintenant, dans le verset 14, c'est régulateur aussi de son témoignage. Donc, nous autres aussi, quand le Seigneur vient dans nos vies puis vient corriger des choses, bien souvent, ça a pour effet de régulariser, de faire que notre vie d'adoration devient mieux que ce qu'elle était avant. Alors, ça va aussi régulariser son témoignage. Le puits de l'Akaïroï, c'est le puits de l'être vivant qui la voit. Plusieurs commentateurs voient dans le puits le symbole du Christ qui vit et qui voit, qui donne et soutient la vie. Agar est désaltéré physiquement et spirituellement. Et verset 15, régulateur de son obéissance, ça nous dit que dans le verset 15, elle a suivi le conseil de l'ange de l'Éternel. Alors, cette apparition de l'ange de l'Éternel l'amène à obéir au Seigneur, à se repentir et à se soumettre aux directives divines. Le verset 16 nous donne l'âge d'Abraham, 86 ans, lorsqu'Ismaël verra le jour. Saraï et Abraham auront donc à patienter encore 13 ans avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Voyez-vous, dans Genèse 17, versets 1 et 2, et dans le verset 17, Abraham parvint à l'âge de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. » Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai immensément. Et Abraham se jeta sur sa face, et il rit, et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, est-ce à l'âge de 90 ans qu'elle enfantera? Alors, Dieu est revenu un peu plus tard, ça a pris 13 ans, avant qu'il lui dise, l'année prochaine, tu vas en avoir un. Puis là, quand c'est arrivé, on sait qu'elle, elle avait ri, puis lui aussi. C'était comme, tu regardes ça, c'est, voyons, là, ça ne peut pas. Là. Alors, il y a plusieurs applications qu'on peut faire à partir de ce texte-là. On est pris 7, on va les faire rapidement. Alors, la première, c'est que Dieu poursuit son plan. Non seulement en dépit de la folie du péché humain, mais à travers lui. Dieu se sert même de nos péchés. Dieu se sert du péché pour amener à continuer son plan qu'il avait révélé au départ. Deuxièmement, apprenons à être patients face aux promesses de Dieu. Ça, vraiment, on a besoin. On en a tous besoin. On n'est pas très patient en général. Consultons-le en toutes choses et attendons vraiment ses réponses. C'est ça le problème. Des fois, on le consulte, mais on est porté à ne pas attendre. On est pressé. On voudrait que ça se règle tout de suite. Troisièmement, méfions-nous des solutions charnelles pour aider Dieu. Catastrophe. On l'a vu, catastrophe. Quatrièmement, sachons que les épreuves et les tentations proviennent parfois de sources inattendues. Nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs spirituels et ceux dans la chair. Des fois, là, les problèmes dans nos vies nous viennent de notre entourage. Et ça, on ne prévoit pas ça. Surtout quand c'est des frères et des sœurs dans la foi, on ne prévoit pas ça. Cinquièmement, soyons convaincus que les solutions charnelles donnent immanquablement des résultats désastreux. Sixièmement, rappelons-nous l'effet d'entraînement du péché. Un péché, les conséquences sont énormes, non seulement dans leur vie terrestre, mais ça va avoir des conséquences sur toute la vie du peuple d'Israël. Pas des petites choses. Mais dans nos vies, c'est la même chose. Quand on fait des bêtises, ça peut avoir des conséquences dans notre vie terrestre, puis ça peut avoir des conséquences qui dépassent notre propre vie terrestre. Et septièmement et dernièrement, soyons pleinement conscients des effets et de la portée à long terme du péché. Rappelons-nous que les Arabes sont devenus les ennemis d'Israël. Faisons une confiance absolue à notre grand et glorieux Seigneur, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.